Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques.
Ouh.
Ça fait vachement plus... plus sorcière que ça ne l'est, finalement.
Comment ça, on n'est pas sorcière? Si, c'est dans le titre.
Si, mais ça fait un peu witchy, tu vois, ça fait un peu peur. On
Alors
est plus
qu'on va
goofy
pas du tout
que
faire
witchy
peur.
ici.
De quoi tu veux parler dans ce nouvel épisode?
Moi, je vais parler de la lune et des phases de la lune et des significations des phases de la lune.
Je vais rigoler pendant tout le temps.
Ouais. Sachez que Louise adore la lune parce que ça parle des fesses.
Voilà. C'est juste de penser à des fesses à chaque fois que Marion va faire sa chronique.
Des fesses lumineuses dans le ciel.
Oh.
Voilà, elle est heureuse.
Ouais, ça va être rigolo. J'ai
Et
vraiment
toi,
un
tu
humour
vas parler de fesses?
Simple. Non, je vais te parler d'un procès de sorcellerie en Angleterre.
Nice! Enfin, non, pas pour les gens qui ont été... Mais c'est sympa de partir en Angleterre, quoi.
Alors, spoiler, c'est vraiment pas nice. Hein.
Ah.
L'histoire est assez horrible.
En plus, je crois que
J'espère
j'ai jamais entendu
que...
encore d'histoire de procès de sorcellerie qui se passait en Angleterre.
Eh ben, écoute, j'ai été inspirée parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était le couronnement du roi Charles. Alors du coup, je me suis dit, tiens,
On
j'ai
reste dans
pas fait trop de
l'actualité.
trucs sur l'Angleterre.
Hey!
Je me suis dit, je pourrais peut-être faire un sujet sur Lady Di, mais il n'y a aucun rapport avec les sorcières. Bon,
Oh,
bah
si,
tant
elle
pis.
était très médium, truc comme ça.
Oui, elle aimait l'ésotérisme, mais... C'est tout.
Ah, de ce qu'on sait.
Tintin, tin.
Ta, ta,
Nous sommes
ta.
maintenant un podcast conspirationniste. En fait, Lady Di, c'était une sorcière.
Et surtout, elle n'est pas morte. Elle est sur une plage à Hawaï avec Elvis
bah non,
et
du
Michael
coup, si
Jackson.
C'est une sorcière.
Oui, parce qu'elle aura sûrement fait une jarre de sorcière pour rester en vie.
You.
Ouais.
Du coup, je vais te parler des procès des sorcières de Pendle.
Je connais pas.
Est-ce que tu es prête?
Non, mais allons-y.
Eh ben, pourtant, c'est une histoire de procès qui est assez connue parmi les histoires de la chasse aux sorcières, parce qu'on a eu de la chance, ça a été beaucoup documenté. Donc, du coup, ça fait partie de ces histoires de procès sur lesquelles on peut dire plein de choses. Et du coup, ça se passe dans la région, comme le dit le nom, de Pendle Hill. C'est dans le Lancashire, au nord de l'Angleterre.
Ok.
On est en 1612, et ça a lieu en même temps que le procès de Samlesbury. C'est une autre histoire intéressante, mais que je vais garder pour une autre fois, parce que je ne vais pas faire les deux, parce que ça serait un peu
Bien
long.
vu.
Et ils sont très très liés parce qu'en fait, les deux histoires de sorcières se passent dans exactement la même région. Et en plus, le procès va se passer au même moment.
Ah oui.
Dans la même cour d'assises. Donc du coup, les deux histoires sont assez liées, même si c'est deux histoires différentes. Et pourquoi j'ai choisi Pendle et pas Samlesbury? Bah, c'est parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai lu un roman de fiction sur les sorcières de Pendle. Et du coup, je me suis dit, tiens,
Ah,
j'ai
trop
envie
bien.
de savoir c'était quoi la vraie histoire derrière,
C'est quoi le roman?
derrière la fiction. Et bien, bah, les sorcières de Pendle.
Ah oui, c'est bon, je crois que tu m'avais montré la couverture.
Il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode bibliothèque
Ouais.
qu'on avait fait, notre hors-série. C'est sympa, c'est une bonne histoire. Divertissant.
Je note.
Du coup, comme je le rappelle souvent, c'est très important de contextualiser quand on parle de chasse aux sorcières. Donc, je t'ai déjà parlé de où c'était en quelle année. Du coup, on va un peu regarder qu'est-ce qui se passait à cette époque à Pendle. Alors, Pendle, c'était dans le Lancashire, qui était un peu dans une région qui avait mauvaise réputation. Donc, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de vols.
Ouais, une région pauvre, quoi.
Et en plus, environ 70 ans plus tôt, il y avait une abbaye qui était très importante pour les habitants, parce qu'ils étaient très chrétiens, qui a été dissoute. parce que, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de l'Angleterre, mais il y a Henri VIII qui a converti tout le pays à l'anglicanisme pour pouvoir divorcer de sa femme.
Ah oui.
Voilà.
C'était incroyable.
Donc du coup...
J'avais oublié qu'il avait fait ça, te rends compte.
Voilà, donc il a forcé tout le pays à se convertir et les gens n'étaient pas forcément d'accord. Et dans cette région particulièrement, ils étaient très attachés à cette religion et d'un coup, cette religion est partie.
Je trouve ça hilarant.
Voilà, donc Henri VIII aurait bien fait d'aller en thérapie plutôt que de faire ça à son pays.
Il y a une super chanson sur lui.
Il y a une comédie musicale sur les femmes d'Henri VIII.
Oh, c'est génial!
Voilà, comme je disais, les habitants, ils sont attachés au catholicisme et du coup, c'est pas parce que le roi a dit que stop, c'est fini, qu'eux, ils vont arrêter. Il va y avoir des messes qui vont être données en secret parce que, forcément, c'est la religion des gens. Ils essayent de continuer de vivre leur culte. Et comme c'est mal vu par l'État, le juge de la région, il est chargé de dénoncer les catholiques qui sont cachés.
Oh.
Et cette tâche, elle lui a été donnée l'année même où il y a eu le procès dont je vais vous parler. Et il faut savoir que le juge était plutôt défavorable à devoir dénoncer les catholiques. Donc peut-être le fait qu'il ait détourné l'attention sur les sorcières, c'était peut-être une stratégie pour laisser les catholiques tranquilles.
Tu veux dire qu'il aurait sacrifié une personne pour en sauver d'autres?
Ah, plus qu'une, attends.
Ah pas bien.
Mais c'était un peu des catholiques ou ça? Oh là, une sorcière! Regardez plutôt là, il y a une sorcière! Faut aussi savoir qu'au moment du procès, c'est le roi Jacques Ier qui était au pouvoir. Et Jacques, il est très inspiré par les histoires de sorcellerie qui ont lieu en Écosse ou au Danemark. À un point que, avant de devenir roi, il avait même écrit un livre de démonologie. Du coup, quand il est roi, il va faire des lois qui vont encourager à condamner à mort les personnes ayant usé de maléfices et donc créer un contexte juridique qui encourage un peu la chasse aux sorcières. Même si, paradoxalement, il était un peu sceptique de tout ce qui était preuve de sorcellerie. Et c'est peut-être ce qui explique qu'il n'y a pas eu autant d'exécutions en Angleterre qu'en Écosse ou en France, par exemple.
D'accord.
Donc on a quand même des lois propices à la chasse aux sorcières, on a un roi qui est sensible au sujet, et du coup c'est peut-être aussi un moyen pour les juges et les représentants de l'État dans les régions qui sont un peu arrivistes d'attirer l'attention du roi en disant « Regardez, nous on s'occupe des sorcières dans notre terrain, faites-nous monter en grade, quoi. »
Le zèle.
Excès de zèle. Un des derniers éléments contextuels importants, c'est que la sorcellerie, elle n'est pas nouvelle dans la région. Il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient ce qu'ils appelaient de la magie pour soigner. Et une cinquantaine d'années avant les faits qui nous intéressent, on avait une personne qui s'appelle Elizabeth Southern, qu'on appelle aussi Dame Dyke. J'ai pas compris pourquoi, mais...
Ok. Comment ?
D-E-M-D-I-K-E. Dame Dyke.
Ok.
Et cette personne, elle avait été accusée de meurtre par sorcellerie. Mais elle n'avait pas été exécutée. Venons-en maintenant aux faits. Tintintin.
Je suis très concentrée, pardon. J'entends que t'attends que je réagisse, mais moi
je fais l'ambiance.
Je suis vraiment.
Non, je fais des pauses pour respirer.
Je suis à fond.
La date, nous sommes le 21 mars 1612.
C'est le début de la saison du bélier.
Tu m'as déconcentré.
Pardon, je mets un contexte.
Le lieu, la route vers la forêt de Trowden. Les protagonistes, on a Alison Device, qui est la petite fille de Dame Dyke, dont on vient de parler. John Law, qui est un colporteur. Et Abraham, qui est le fils de John Law.
Ok.
Et donc, les faits. On a Alison qui va demander à acheter des aiguilles à John, parce que c'est un colporteur, c'est ce qu'il fait, il vend des trucs. Faut savoir qu'aussi, à l'époque, les aiguilles, ça pouvait servir à la vie de tous les jours, mais ça peut aussi être utilisé dans la magie populaire.
Ok.
Du coup, il y a aussi un petit sous-entendu là-dedans. Et quand vient le moment de payer les aiguilles, il y a deux versions. Il y a Allison qui dit que John a refusé parce qu'il n'avait pas envie de sortir tout son matériel juste pour faire payer quelques aiguilles. Mais d'un autre côté, il y a Abraham, le fils de John, qui raconte que c'est Allison qui a refusé de payer.
Version des faits.
En tout cas, il y a petite animosité. Et peu de temps après s'être séparés, John va s'écrouler.
Okay.
Heureusement, il va se rétablir vite, c'était juste un malaise, mais Allison va croire qu'elle est responsable de ce qu'elle a, de ce qui est arrivé à John et elle va s'excuser auprès de lui.
Oh, mais non, t'allais surtout pas faire ça.
Peut-être que le fait que sa grand-mère était accusée de sorcellerie a fait qu'elle a dû penser que, elle avait un pouvoir en elle qu'elle n'a pas contrôlé.
Oh, la pauvre. Elle a hérité
Alors que
des traumas familiales d'être vue comme une sorcière et...
c'est fort possible.
Oh.
Alors que ça se trouve, le mec, il a fait juste une petite hypoglycémie et puis c'est tout.
Et puis, si ça se trouve, il avait beaucoup bu la veille d'alcool et il buvait pas beaucoup d'eau. Il était complètement déshydraté. On les connaît, hein. Les Britanniques.
Entre donc le juge de la région, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Roger Noel, et il va convoquer Allison, mais aussi son frère et sa mère, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette affaire. Et alors c'est là que tout part dans tous les sens. On va avoir Allison qui va confesser avoir vendu son âme au diable. Le frère qui va soutenir sa sœur, non pas du tout, le frère qui va dire qu'Allison ensorcelle des enfants.
Mais...
Et la mère qui va dire que, ah mais vous savez que la grand-mère, elle est aussi accusée de sorcellerie? Voilà, solidarité familiale.
Dans le doute, au cas où on nous accuse, on préfère accuser...
Tout faire sur à la pauvre Allison.
Horrible.
Et dans la pagaille, Allison, bah, elle va aussi accuser des gens, et elle va accuser plusieurs membres de la famille Chattox. C'était une famille avec qui la sienne avait des différends. Donc, quitte à couler, autant entraîner ses ennemis dans la chute. Petite stratégie. Ainsi, le 2 avril 1612, on va appeler à comparaître les membres de la famille Chattox, donc ceux que Allison a accusés, mais aussi la grand-mère d'Allison, Dame Dyke. Et on va avoir les deux grand-mères des deux familles, donc, qui ont dans les 80 ans et qui sont aveugles. Ah.
Mais...
Donc évidemment, bah, le juge il va obtenir très facilement des preuves, des aveux. Et quatre femmes vont être inculpées suite à ça. Donc il y aura Allison, sa grand-mère Dame Dyke, la grand-mère Chattox et sa fille Anne Redfern. Voilà.
Il y a un pattern qui se répète là quand même.
Tu penses que c'est fini? Non, non, non.
Ah non, non, je pense pas du tout que c'est fini, je pense que c'est que le début.
S'il y a bien un truc que nous ont appris les séries télé policières, c'est que quand on est accusé, on fait plutôt profil bas. Sauf que ils n'avaient pas la TV à cette
Ils savaient
époque.
pas.
Du coup, 4 jours après que sa mère et sa fille ont été inculpées, il y a la maman d'Allison qui va décider de fêter le Vendredi Saint avec ses amis, pou pou pou, petite partie, avec tout le reste de la famille qui n'était pas en prison. Vendredi Saint, qui je rappelle, est une fête catholique, donc normalement ils sont pas censés faire de
Ah
gros
oui.
stuff en plus. Et ils vont donc se retrouver avec tous leurs petits amis dans leur résidence qui s'appelle la Tour Malkin. Comme ça fait beaucoup de monde à nourrir, le frère va aller voler un mouton au voisin. Évidemment, bah, ça fait tout un scandale. Ils vont se faire remarquer par le juge. Et le juge est allé les voir en disant ben, vous êtes sérieux, les gars? Enfin, sérieusement, c'est véridique, il a vraiment dit ça.
Pardon, petite pause ici. Mais je trouve ça hilarant. Ça me rappelle quand je travaillais à West France l'été et que on a eu littéralement un article qui commençait par un mec qui avait pris le volant alcoolisé en ayant pris de la drogue alors qu'il avait plus de permis et que c'était une voiture volée. Enfin, tu sais, t'as toujours besoin de renchérir, de surenchérir avec un truc.
Ça arrive étrangement super souvent. Donc du coup, à ce déjeuner à la Tourmaline, il y avait plusieurs personnes présentes à ce repas, et 8 vont être accusées de sorcellerie et rejoindre les 4 autres qui étaient déjà en prison. On va donc avoir la mère qui a organisé le repas, le frère qui a volé le mouton, Elizabeth et James DeVice, mais aussi Alice Nutter, Catherine Hewitt, John et Jane Bullcock, Alice Gray et Janet Preston. Voilà.
La liste des invités, sympa. Je connais personne,
Donc,
mais
on a
sympa.
12 personnes. Je connais personne. On a donc 12 personnes qui vont être jugées et qui vont être envoyées sur des cours d'assises. Alors, il y en a toutes sauf une vont aller être jugées à Lancaster. Et il y en a une qui va être jugée à York parce qu'elle vivait à proximité de York, donc elle dépendait de cette juridiction. Donc, on a le 27 juillet 1612, Janet Preston, une des invitées du repas, qui va être jugée à York, déclarée coupable et pendue. Wouhou! Les 18 et 19 août 1612, ça va être les autres accusés qui vont être jugés à Lancaster, comme j'ai dit. Et alors, encore une petite couche de vraiment, c'est une histoire très sympathique. Le témoin clé pour ces procès, c'est Janet DeVice, qui est la petite sœur d'Alison et qui est âgée de 9 ans.
Oh, c'est horrible.
Et en plus, les témoins aussi jeunes, normalement, ils étaient interdits pour les procès, mais le roi avait autorisé une exception dans les cas de sorcellerie. On pouvait prendre des
Ah bah oui,
petits-enfants.
c'est tellement pratique.
Donc, la petite Jeannette, 9 ans, va identifier les personnes qui étaient présentes au repas à la Tourmaline. Et elle va même aller plus loin que ça, puisqu'elle va accuser sa mère, raconter qu'elle a un chien marron comme familier, un chien qui s'appellerait Ball. Ce qui est plutôt cool comme nom de chien, mais clairement ça n'arrange pas le cas de sa mère. Et à un point que sa mère va devoir être évacuée de la salle d'audience parce qu'elle hurle sur sa fille qui est en train de l'accuser de sorcellerie.
Horrible.
Voilà. Et pendant ce temps-là, la petite Jeannette, elle est debout sur une table pour raconter ses histoires avec plein d'adultes qui l'encouragent, qui l'écoutent.
Elle se rend probablement pas du tout compte de ce qu'elle est en train de faire.
Non, elle voit juste plein de gens qui sont pendus à ses lèvres et elle trouve ça génial. On va voir le frère qui est aussi jugé. Il accuse aussi sa mère, parce que pourquoi pas, et il va plaider non coupable. Mais comme il avait déjà avoué sa culpabilité auprès du juge Noël, donc le juge local, il va quand même être condamné comme sa mère. Alison, de qui est partie toute l'histoire, c'est une des seules personnes qui est condamnée, qui est persuadée d'être coupable. Et du coup, je ne sais pas c'est quoi le pire, être accusée de sorcellerie et se savoir innocent, ou au contraire se croire coupable.
Bah, au moins quand tu te crois coupable, j'imagine que tu penses que ce qui t'arrive est juste.
Ouais, mais c'est assez horrible parce qu'elle pense vraiment qu'elle a fait du mal aux gens,
Ouais, mais du mal,
involontairement.
c'était genre faire s'évanouir quelqu'un.
Bah ouais, c'est vrai, surtout qu'il est toujours en vie.
Juste
Ouais,
parce que
c'est
tu te
assez
sens
horrible.
coupable, tu fais tomber plein de gens avec toi. Mais je pense que, tu sais, c'était un petit peu comme le cas du mec qui croyait être un loup-garou. Je pense que, en fait, tu es dans une espèce de psychose avec toi-même. Et puis, l'ambiance hyper religieuse, en fait, te met dans l'idée que, de toute façon, enfin, c'est un peu, tu es dans une époque où tu n'es rien sans la religion. Tout ce que tu es, c'est une personne dans la religion.
Bah là, c'est aussi hyper compliqué parce qu'ils sont entre deux religions, quoi. Ils ont la religion qu'ils aiment et auxquelles ils tiennent, et la religion qui
Mais
leur
dans
est
les deux cas,
imposée.
t'as l'idée qu'il faut que tu fasses les choses bien parce que Dieu te regarde et sinon tu vas aller en enfer, quoi. Et je pense que la mort est pas considérée comme quelque chose de terrible quand t'es persuadé que tu peux aller en enfer derrière. Ouais.
Chouette, chouette,
Ouais,
chouette.
ouais,
On
ouais.
continue? On a ensuite la grand-mère Chattox qui va plaider coupable parce que un homme qui avait vécu dans leur maison va l'accuser aussi d'être une sorcière et il accuse, pour lui, sa preuve que c'est une sorcière, c'est parce qu'elle a rendu sa bière aigre.
Ah bah oui. Comme, tu sais, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles font tourner la mayonnaise, Louise.
Voilà. Et du coup, franchement, elle a rendu sa bière aigre, donc au moins, elle mérite la mort. Hein.
Minimum. La bière, c'est sacré. Hein.
C'est bien des Anglais, ça.
Ouais, je pense pas qu'on soit mieux de ce côté-là, avec la bière en France.
C'est le vin.
Elle a rendu le vin bouchonné.
On la tue. Ouais. On va avoir aussi... Du coup, la grand-mère va demander pitié pour sa fille, qui était aussi accusée, Anne. Malheureusement, ça marche pas. Celle-ci va être aussi jugée coupable et condamnée. Du coup, je vais te la faire courte. Avec tous les autres invités, tout le monde est jugé coupable, tout le monde est condamné à mort. Tous, sauf une résistible, pas du tout gauloise, qui s'appelle Alice Gray. C'était une des invitées au repas du Vendredi Saint. Et on ne sait pas vraiment pourquoi elle va être acquittée. Et il n'y a pas d'information là-dessus dans son procès. On voit juste qu'elle est dans la liste des accusés. Et à la fin, elle est acquittée.
Intéressant.
Mystère.
Et boule de gomme.
Mais comme je disais, on a justement ces informations sur toutes les personnes. Parce que le greffier était très assidu. Donc il y a eu beaucoup de comptes rendus sur ces procès. Et ces comptes rendus ont même été publiés dans un livre qui s'appelle The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster.
The Wonderful Discovery.
C'est génial. T'as l'impression que c'est un livre de contes pour enfants.
Après, Wonderful, ça avait pas la même signification qu'aujourd'hui à l'époque. C'était un peu formidable, tu vois. C'était pas forcément génial, c'était juste très grand.
Ah oui, bah aujourd'hui, ça passe vraiment pour...
Mais aujourd'hui, ouais, ça fait très...
Pour enfants, avec les gentilles sorcières qui vont aider le...
En fait, on dirait le nom d'une série Netflix pour les enfants.
Sauf qu'en fait, ils meurent tous à la fin, hein, justement. Ouais. Donc, comme tu peux le penser, c'est assez horrible comme histoire. Et tu aurais raison de penser ça. Et ce n'est pas fini.
Oh, c'est pas fini.
Il en reste un petit bout. Tu peux peut-être te demander ce qu'il est advenu de Janet DeVais, la petite de 9 ans qui a fait condamner toute sa famille à mort. Eh bien, son nom paraît sur une liste d'accusés aux assises de Lancaster en 1634, accusée pour meurtre. Elle aurait tué Isabelle Nutter, qui est de la famille d'Alice Nutter, une des condamnées au procès de 1612. Et on pense qu'elle passera probablement le restant de ses jours en prison.
Quelle vie. Pour meurtre.
Voilà. Tout le monde est triste maintenant. Vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. L'histoire des sorcières de Pendle, elle est assez connue au Royaume-Uni, en particulier dans la région où ont lieu les faits. Il y a eu pas mal d'adaptations, de documentaires... comme je te disais au tout début, moi j'ai lu une fiction qui s'inspire de cette histoire, qui s'appelle Les sorcières de Pendle, de Stacey Halls. Et donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, y a pas mal de choses que vous pouvez aller voir par rapport à ça. Et probablement, je vous ferai un jour, j'aime bien vous faire des teasers sur les futures chroniques, l'autre partie, les histoires des procès de Sam Lesbury, dans lequel il y a des cas, enfin des accusations de cannibalisme.
Ah bah voilà, c'est tout ce qui nous manquait. On avait tous les trucs horribles, sauf le cannibalisme.
T'inquiète pas, il est pour la partie 2. Bon bah j'espère que ton histoire de lune, elle va nous remonter le moral.
Oui, il n'y a rien de... C'est chill, hein, la lune.
C'est chill.
C'est pépouze. Attends, je prends...
Heureusement que tu passes après moi.
Un petit temps pour digérer.
Pour respirer. Le pire de l'humanité.
Ça y est.
Ça va mieux.
Alors.
Donc la lune.
Oui, la signification des phases de la lune. C'est sûr que j'en ai déjà parlé dans divers épisodes, mais en tout cas c'est certain, dans le dernier j'en ai un peu parlé. Et je disais que justement j'allais faire une chronique là-dessus parce qu'en fait tu peux comparer un peu les phases de la lune au sabbat, Parce qu'en fait, c'est tout simplement une histoire de luminosité et d'ombre qui veulent dire des trucs. Donc, les phases de la Lune ont en magie une symbolique chacune. Et ça fait. Enfin, en gros, c'est un peu comme les sabbats. Encore une fois, tu célèbres le cycle, l'éternel renouveau, tout ça. Et moi, je vais un peu plus parler des significations astrologiques, puisque c'est plus mon domaine d'expertise que le reste. Alors, à ton avis, combien y a-t-il de phases principales de la Lune?
6,
Plus.
12,
Moins.
10,
Moins.
8,
Oui.
ah, du premier coup.
Bon, des phases, t'en as autant que tu veux, puisque en 28 jours, elles changent tout le temps, mais c'est vraiment les phases principales qu'on reconnaît les plus.
Ouais.
Du coup, ce sont celles que tu vois dans les calendriers et les éphémérides un peu poussées. Généralement, dans les calendriers, tu vas voir pleine lune, nouvelle lune et peut-être les quartiers. Mais dans les calendriers, par exemple, qu'on utilise pour jardiner avec la lune, tu as toutes les phases de la lune. Alors déjà,
Ouais.
je vais rapidement faire un petit résumé de toutes les symboliques qu'on donne à la Lune en astrologie, parce qu'il y a de quoi faire, puisque visiblement, la Lune, c'est un peu notre astre préféré avec le Soleil. J'adore parce que les gens sont vraiment fascinés par les gens adorent la Lune. Je travaille dans un média où on fait des papiers, des articles sur l'ésotérisme, et dès qu'on fait un truc sur la Lune, les gens adorent, ça marche hyper bien, parce que bah, la Lune fascine. Voilà. Et en même
C'est
temps,
beau.
quand t'as pas d'électricité, voire pas de feu, que c'est la nuit et que tu flippes parce que tu peux te faire prédater, t'es content d'avoir une lampe qui brille dans le ciel. Donc je pense que c'est pour ça que la lune, on l'aime bien. Tout simplement parce
Oui,
que c'est moins flippant quand
mais
il y a
dans
de
ce cas-là, on
l'éclair.
préférerait le soleil parce que là, on voit
Oui.
carrément.
C'est pas la même chose, tu vois, le soleil, il fait déjà jour, donc même quand il fait gris, si on le voit pas, on
Oui,
se
mais c'est
sent pas.
grâce à lui qu'il fait jour.
Certes, c'est aussi grâce à lui que la lune nous éclaire. Mais voilà, quand tu sais pas forcément tout ça, que tu vois la lune qui t'éclaire la nuit alors que c'est le moment où tu as le plus peur, tu te sens rassuré. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce pourquoi l'une des symboliques de la lune, c'est la protection et la sécurité. Parce que,
Merci la
merci la
lune.
lune. Et en plus de ça, elle est associée au monde de la famille et de l'enfance, donc encore plus de l'intime et de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle évoque de 1, la fertilité, et de 2, la création. Et de 3, les souvenirs. La fertilité et la création, parce que bah, elle est à l'origine des marées et qu'on cultive avec elle, etc. Il y a vraiment un côté sans la lune, il n'y aurait rien qui pousserait, tout ça, tout ça. Et un
Ouais.
côté, les souvenirs, parce qu'en fait, elle reflète le soleil. Et là, vous me dites, je vois pas le rapport, et je vous explique. En astrologie, la lune et le soleil, ça va
À
de
part
pair.
reflet, c'est comme un souvenir.
Bah, c'est pas vraiment ça. C'est que, en fait, le soleil et la lune, ils sont
Ok, j'ai
complémentaires
tenté.
dans leur signification. Le soleil, comme tu disais, on l'a tout le temps, on l'aime bien, et il est content. Il nous donne de la lumière en permanence, il représente le jour, notre conscience, l'extraversion. Et la lune, elle, c'est la nuit, l'introversion et l'inconscient. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dont les souvenirs, les racines, la mémoire, tout ça. Et là où le soleil, en gros, ça montre, c'est ce qu'on montre et ce qu'on exprime, la lune, ça représenterait tout ce qui se passe en nous de caché, puisque c'est la night. Et du coup, par rapport à l'eau et ses remous, la lune, ça représente aussi du coup nos émotions, notre imagination, la créativité, tout ce qui se passe dans nous et qui peut ressortir grâce au soleil dans le jour. J'ai faim. Petite pause, faim. Ça va aller le ventre. C'est reparti. En astrologie, du coup, la Lune, elle porte toutes ces significations-là, mais à chaque fois qu'elle passe dans une constellation du zodiaque, elle se teinte un tout petit peu de la signification du zodiaque. C'est pour ça qu'on dit que, je sais pas si toi, par exemple, Louise, t'as une Lune en Poisson, ce qui est le cas. Non, attends. En Gémeaux, pardon. C'est ton ascendant qui est Poisson. Ça veut dire que quand tu es né.
J'ai l'impression que tu sais plus d'infos sur
Non,
moi que
non, non.
moi-même.
Rassure.
Écoutez, c'est quoi mon numéro de sécu?
Ça veut dire que quand t'es né, le soleil il était dans la constellation du Capricorne parce que tu es Capricorne, mais la lune elle était dans la constellation des Gémeaux. Et du coup, tout ça ça change assez rapidement puisque en fait la lune elle fait le tour de la bande de ciel qu'on appelle le zodiaque en 28 jours, donc à raison d'environ 2 jours et demi par signe, elle fait tout hyper rapidos. Du coup, le soleil il fait ça en un an, donc voilà pour comparaison. D'où la symbolique de la lune qui nous manque et qui est le changement, l'inconstance, le C'est en mouvement, on ne sait pas trop. Ça bouge. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, lunatique pour dire d'un tempérament qui varie souvent.
Ah
Voilà,
oui,
être
dans la
dans la
lune.
lune, etc. Et dans Roméo et Juliette, je ne sais pas si tu te rappelles. Alors, moi, ma référence ultime, c'est le film Roméo plus Juliette. Donc, c'est quand DiCaprio et Claire Danes sont dans la piscine au début et que le mec, il veut l'épouser et il veut jurer sur la lune qu'il va l'épouser. Et elle lui répond, je cite, Oh, ne jure pas par la lune. Par la lune inconstante qui change tous les mois dans l'orbe de sa sphère, de crainte que ton amour ne se montre à l'épreuve aussi variable qu'elle. Popopo!
Po.
Franchement, trop bien répondu, Juju. Tu gères.
Ouais,
Ouais, moi non plus,
j'y aurais
de
pas
ouf.
pensé.
J'aurais certainement pas répondu ça.
Bah
Ne
non,
jure pas
ça
la
se
lune?
fait
Ok,
pas.
super cool, on se marie demain, yes, bro. Maintenant qu'on a posé. Oui, ça a très
Remarque, ça
bien.
a
De
mal
toute façon,
fini leur
c'était pas
histoire,
sous
donc
des très
bon.
bonnes auspices. Mais eux, ils étaient mignons. Hein. C'est juste que le monde n'était pas prêt pour leur amour. Ah oui.
Oh.
Maintenant qu'on a un petit peu posé le décor, voici en quoi la Lune est inconstante, mais surtout pourquoi c'est rigolo, car il y a plein de significations pour chaque phase. Phase numéro 1. On dirait qu'on parle d'un plan
Ouais.
démoniaque. Phase numéro 1.
Phase
La
numéro un.
nouvelle Lune. On aurait pu dire en gros que n'importe quelle phase était la première, certes, mais vu que la nouvelle lune, c'est le moment où on ne voit pas la lune, j'imagine que c'est plus pratique de se dire que c'est une page blanche, que du coup, c'est un peu le reset de la lune. Sais pas pourquoi je fais une pause là. On l'appelle aussi la lune noire.
Ah, comme moi tout à l'heure.
On se fait des.
Si tu prends ta
Donc on appelle
respiration.
aussi cette phase de la Lune la Lune noire, tout simplement parce qu'elle n'est pas éclairée, enfin si, elle est éclairée par le Soleil, mais du côté où nous on la voit pas, donc on s'en fout. Ça représente du coup un renouveau, c'est vraiment la page blanche totale, c'est la page blanche qui a à réécrire pour tout le cycle lunaire suivant. On est un peu dans l'introspection et dans la pause aussi, parce que a priori s'il fait complètement noir, on peut peut-être ne rien faire et dormir. Dans la roue des sabbats de l'année, ça correspondrait donc au solstice d'hiver, soit le moment où il y a le moins de lumière et où c'est le jour le plus sombre de l'année, et où on fait du coup des plans pour l'année à venir. Il y a ce côté un peu de on reset, c'est la fin et le début en même temps. La phase numéro 2, c'est le premier croissant. C'est celui qui se trouve en lune montante, donc en gros, c'est celui qui est du côté droit de la lune quand vous regardez dans le ciel. Comme ça, vous avez un fun fact, si vous voyez que le croissant, il est du côté droit de la lune, vous pouvez dire, Ah, la lune, elle est montante. Voilà. Et vous avez l'air stylé un peu 2 secondes. Ça symbolise donc l'ouverture au monde. En gros, c'est le début, c'est le commencement, mais on y va doucement. C'est un commencement qui est encore timide, qui est un peu encore doux. On sort de cette tanière pépouze. On prévoit des trucs, mais c'est tranquille. Ça correspondrait plutôt à Imbolc, du coup, ce moment où le soleil y revient un tout petit peu, mais t'es tellement content que tu fais des crêpes quand même. Phase numéro 3.
M'en fous, il est là quand même.
Yay, c'est moi la merde. La phase numéro 3, c'est le premier quartier. Ce que je ne comprends pas pourquoi on appelle ça un quartier, puisqu'en fait, c'est la première moitié de la Lune.
Il y a forcément une explication
Il y a une
géométrique qu'on n'a
explication.
pas.
L'explication, c'est que c'est de la merde, c'est faux. Ce n'est pas un quartier.
Comme c'est une sphère, comme
C'est
on n'en
pas un
voit qu'une
quart de la Lune,
face.
wesh. C'est la moitié de la Lune.
Bah oui, mais vu que tu vois pas l'autre côté.
Ouais, mais il n'y a pas de côté, c'est une sphère.
Bah oui, c'est vrai.
Oui, ça n'a aucun sens. Bon, la première moitié.
Bref.
Le premier quartier de la Lune, ça signifie qu'on a vraiment bien entamé les choses. La lumière est de moitié. L'idée, c'est que c'est de s'activer, de mettre des trucs en germe, de commencer des trucs. Et ça correspond, si vous vous souvenez bien, au sabbat de Ostara, la Pâque païenne qui célèbre la fertilité et le moment où on ouvre des œufs, globalement, et où on se met en mouvement après s'être un peu reposé. Ensuite, on a la Lune gibbeuse croissante, qui est la phase numéro 4. Et c'est très long comme nom de phase de la Lune. Ou vous pouvez aussi appeler ça Lune gibbeuse, mais du coup, on ne sait pas dans quel sens elle gibbe, la Lune.
Ah oui, il faut dire
Ouais.
croissance ou décroissance.
Donc, c'est la phase visuellement où la Lune, elle a l'air presque pleine, mais de pas beaucoup encore. Cette phase, ça porte sur le principe de la construction. En fait, à partir du moment où tu mets des trucs en germe, Tu les continues. C'est vraiment la phase de je continue le projet que j'ai commencé, je perfectionne. Et côté sabbat, ça représenterait du coup ce qu'est Beltane, parce qu'il y a un côté de créativité et de fertilité qui serait à son climax à ce moment-là. C'est. Tu bosses, tu es en train de faire quelque chose, quoi. Ensuite, la phase numéro 5, c'est l'accomplissement total, c'est la pleine lune. C'est le moment où la lune elle est en pleine lumière à 100%. Et du coup, il y aurait une idée de succès, de pouvoir, de joie, de fête. C'est la teuf. En plus, on voit hyper bien dehors. C'est super pratique, surtout pour faire des grosses teufs. En gros, l'idée, c'est que tu profites de tout ce que tu as mis en place depuis la nouvelle lune. Et ça correspondrait du coup au sabbat de Lita, qui est le solstice d'été ou la Saint-Jean, puisque la lumière est à son max et on est hyper content. Yay! De toute façon, les phases de la lune, c'est génial, hein. C'est juste être content pour plein de choses différentes. Pour plein de raisons différentes. Voilà.
C'est bien, on a
Exactement.
besoin d'un peu d'optimisme en ce moment.
Et la lune gibbeuse décroissante, elle est optimiste malgré le fait qu'elle soit décroissante. Donc, c'est littéralement la phase qui entame la décroissance. Mais oui, elle est super. La décroissance. C'est ce truc que réclament les écologistes pour qu'on meure pas, par exemple. Voilà, c'était ma blague politique. Je suis très courageuse, comme dirait John
Oh.
Mulaney. Du coup, la lune gibbeuse décroissante, c'est le moment où on commence à faire un peu machine arrière. Donc, dans la première phase de la lune, c'est le moment où on met des choses en germe, où on en profite à la pleine lune. Et là, on commence un peu à se replier vers soi pour entamer un peu la partie plutôt reposante de la lune décroissante. Le tout dans la joie et l'optimisme. En fait, tu célèbres le fait que tu te prépares à rentrer dans la période sombre. C'est le dark side de l'année, mais dans la joie et la bonne humeur. Donc ça correspond un peu au moment de l'Uniasad après Lita, où tu sais, on va rentrer dans le dark
Tu te
side. Tu te
prépares.
prépares, ça va aller. C'est cool. Le dernier quartier, qui est donc la dernière moitié, et donc la phase numéro 7, c'est symboliquement l'automne du cycle lunaire. Là, il n'y a plus de doute, on se dirige vers la noirceur. Du coup, ça correspondrait plutôt à Mabon, ou Mabon, je ne sais pas comment on dit, qui est le sabbat qu'on retrouve au mois de septembre, Oui, c'est ça. Ce moment où tu sens que ça y est, c'est le début de la fin, et en gros, ça parle. C'est une phase qui parle de déconstruction. Pas dans un sens catastrophique, mais dans le sens de. Ben en fait, des fois, les trucs qu'on a construits, il faut les déconstruire. Soit parce que, je sais pas, t'as des trucs à virer de ta vie, à trier, ou simplement pour reconstruire plus tard en mieux, parce que, bah voilà, on fait tous des erreurs et des fois, il faut défaire ce qu'on a fait pour refaire en mieux.
C'est un truc de wokiste.
Ouais, exactement.
Moi aussi, je fais des blagues
Ah ouais!
politiques.
Ouais, toi, t'étais dans le dernier quartier de ta phase lunaire de ta vie. Bref, c'est un moment où tu réfléchis, où tu te poses des questions, quoi. Et la phase lunaire numéro 8, la dernière, c'est le dernier croissant. Donc lui, il se situe du côté gauche. Et là, vous savez que c'est quasiment bientôt la nouvelle lune. Et donc, on l'appelle aussi la lune balsamique, mais j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Donc voilà, si vous avez une réponse, je veux bien l'entendre.
Elle est couleur vinaigre
Bah
balsamique.
non. Non. Pas du tout. J'ai
Zut.
cherché balsamique à la base, il y a une idée de parfum. De quelque chose qui sent quelque chose. Donc, est-ce que ça sent la fin? Peut-être. Bah c'est un peu, du coup, le dernier croissant, c'est un peu le générique de fin du cycle lunaire. C'est pas encore la pleine lune, on voit juste un petit croissant tout fin. Mais en gros, là, on a ouvert la porte du dark side et on s'y engouffre. Du coup, là où dans la lune, la phase lunaire précédente, tu te demandais peut-être ce que tu pouvais améliorer ou déconstruire ou ce que tu aurais pu faire de mieux, et ben là tu t'y engouffres et tu le fais, quoi. Ça parle d'accepter que bah, tout n'est pas joli, d'accepter que parfois tout a une fin aussi, de faire place nette pour l'après aussi, de lâcher prise et d'accepter que tu peux pas tout contrôler. Et du coup, c'est une phase lunaire qu'on associe à sa main, le moment où il y aurait une sorte de passage vers l'au-delà et du coup de lâcher prise, puisque la mort est l'ultime lâcher prise. Voilà, bonne journée à vous.
Ouais, j'aime pas
Moi
le
non plus.
lâcher prise.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, fun fact. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, en astrologie, vous avez un signe lunaire, mais vous avez aussi des traits de personnalité qui sont accordés aux gens selon la phase de la lune où ils sont nés, en plus de ça. Donc, si vous voulez savoir, vous pouvez taper phase lunaire avec votre date de naissance. Normalement, il n'y a pas besoin de l'heure parce que c'est quand même assez... Voilà, vous savez que pendant 24 heures, la lune, a priori, elle est dans le même... Après, ça peut arriver que vous soyez vraiment à la limite entre deux phases lunaires et là, vous pouvez regarder l'heure. Mais aussi, si vous touchez un tout petit peu à l'astrologie et que vous savez ce que c'est un thème astral, vous pouvez même essayer de voir en fait sur votre thème astral, sans calendrier, c'était quoi la phase lunaire de votre naissance. Par exemple, si vous êtes poisson, lune en poisson, ça veut dire que vous êtes né pendant ou pas loin de la nouvelle lune. Parce qu'en fait, la nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont dans la même constellation du zodiaque. Donc ça, déjà, c'est fait. À l'inverse, la pleine lune, c'est le moment du cycle lunaire où le soleil et la lune sont dans l'un deux signes opposés du zodiaque. Ce qui est mon cas, par exemple, je suis taureau et j'ai la lune en scorpion. Et ça veut dire soit que vous êtes né pendant la pleine lune, soit que vous êtes né un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Et moi, c'était un tout petit peu avant. Donc, je suis née en lune croissante gibbeuse,
Ouais.
ce qui voudrait dire que j'ai un tempérament perfectionniste. Pourquoi pas?
Oh, j'aurais pas dit ça de
Oui, c'est parce
toi.
que je le cache bien. Toi, par contre, tu es Capricorne, lune en poisson. Comme le Capricorne, c'est avant le poisson, ça voudrait dire que tu serais né après la nouvelle lune, je dirais plutôt premier croissant ou premier quartier. Probablement
Ok, je
entre
sais pas quoi faire de cette information.
Voilà. J'ai fait un article sur le sujet, si ça vous intéresse, sur la personnalité en fonction de la phase lunaire où vous êtes né. C'est cool de savoir quand vous êtes né, la phase lunaire. Comme ça, si jamais votre anniversaire retombe dans la même phase lunaire, vous pouvez être là, genre, waouh, c'est comme quand je suis
Moi,
née.
je suis née avant l'apéro de
Vous
midi.
savez, c'est comme quand votre anniversaire retombe le jour de la semaine où vous êtes né. J'aime bien. J'ai l'impression que la boucle est bouclée, quoi.
Ah oui, ouais. Mais c'est un vendredi.
Oui, donc tu es né le jour de Vénus, c'est le jour du fun, puisque c'est bientôt le week-end. Moi, je suis née le jeudi, qui est le
Ah.
jour de Jupiter, le jour de l'optimisme.
C'est mon jour préféré le
C'est
jeudi.
vrai? Intéressant.
Ouais, je sais pas pourquoi j'aime bien les jeudis. Peut-être parce que y a un de mes podcasts préférés qui sort le jeudi, et du coup les jeudis, je me dis, ah,
Moi,
chouette.
j'aime bien le samedi pour des raisons évidentes. Parce que le dimanche c'est cool, mais le lendemain il y a
Tout
des
est
trucs à
fermé.
faire, alors que le samedi c'est cool et le lendemain t'as rien à
Ouais, c'est
faire.
le blues. Ok.
Mon jour préféré est totalement induit par le système capitalistique dans lequel on vit. Et, ah oui.
Voilà, c'était très politique la lune.
Oui, c'est très. Eh, mais attends, c'est pas fini parce que je voulais te faire un petit quiz. Parce que,
Ah.
le sachiez-tu, on donne des noms aux pleines lunes selon le mois concerné, en France et ailleurs d'ailleurs, mais là on va se concentrer sur les noms en France, parce que dans chaque pays, tu dis c'est la pleine lune de tel truc parce que ça correspond un peu à ce que tu retrouves dans la saison dans ce pays-là. Donc.
Ouais.
Sauf que des fois, c'est un peu tricky le nom et tu te dis c'est quoi le rapport avec la pleine lune et tu sais pas. Donc moi je vais te les donner dans le désordre et toi tu vas essayer de trouver quel mois correspond à cette pleine lune.
Je vais être très nulle à
Bon, ça va
Dieu.
être
Ok.
très drôle.
Faut que je note.
Non, t'es pas obligé, on fait une par une. Bon après les deux,
Ok.
trois dernières, ça va être plus facile.
Ok.
Alors, la pleine lune des fraises.
Mars.
Non.
Mai.
Non. Oui.
Juin.
C'est le mois des. C'est le plein mois des fraises. C'est vrai que maintenant, on les cultive un peu plus tôt parce que aussi, il fait plus chaud qu'avant, je
On
pense.
commence à en avoir. Ouais, je viens d'acheter mes premières
C'est vrai?
fraises.
Ah, moi, je les ai déjà achetées.
Ouais, au marché.
Je les ai déjà consommées à plusieurs reprises, je dois dire. Ensuite, pleine lune des tempêtes.
Donc, pleine lune des tempêtes. Les tempêtes de novembre?
Non, c'est pas vraiment des tempêtes. Mais si je dis le mot,
Ah.
c'est sûr que ça va te donner le mois. Tempête.
Mars.
Oui, c'est la pleine lune des giboulées.
Ah bah oui, c'est pour ça quand
Mais
t'as dit
tempête,
si je dis le mot, j'ai fait
je comprends pourquoi
le
ils ont
truc dans ma
choisi
tête.
tempête, hein, c'est plus classe que giboulée.
Ah, c'est
Ensuite,
rigolo comme mot giboulée.
pleine lune du loup.
Ah ouh,
janvier. Oui, bien joué. C'est la pleine lune de ton anniversaire.
J'ai été possédée par le loup.
Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une période où on voit beaucoup les loups? Je n'ai pas réussi à trouver la... Ah oui, c'est parce que vu que c'est des trucs vachement à l'oral, tu sais jamais d'où viennent les putains de significations des mois. C'est hyper frustrant. Ensuite, la pleine lune des longues nuits. Elle est facile.
Quand est-ce qu'on a des nuits les plus longues? Du coup, c'est en hiver. Ça doit être au début de l'hiver. C'est quand le début de l'hiver?
J'aime cet esprit rationnel.
Pourquoi c'est pas rationnel
c'est
du
quand
tout
le, c'est quand le début de l'hiver? En fait, c'était bien jusqu'à... C'est quand le début de l'hiver? Je me dis, waouh, elle est tellement intelligente et... Bah, Louise.
Oui, mais je sais plus, c'est quand la limite entre octobre et... Entre automne et décembre. Oh, je vais y arriver.
Tu vois, ça, c'est un truc
C'est en novembre, non?
Non.
Décembre? Oui.
C'est le 21 décembre parce que c'est le jour de l'entrée dans le signe du Capricorne. PMTC.
Ah.
Ensuite.
Bah non, du coup, c'est TM... TC pas.
Hein? TMTC pas.
Vu que j'avais pas la réponse.
Pleine lune des moissons.
Les moissons moissonnent en juillet.
Ouais, mais il y a un piège. Eux, ils devaient moissonner plus tard.
Août.
Plus tard.
Septembre.
Oui. J'ai...
C'est les dernières moissons.
C'est étonnant quand même, mais bon, pourquoi pas. Après, il y a certainement des endroits où on moissonne en septembre. C'est possible de moissonner en septembre. Mais bon. Chacun voilà, fait comme il peut. Ouais. Ensuite, alors celle-ci, moi, elle m'intrigue. Pleine lune du chasseur.
Je sais plus ce qu'il me reste. Avril.
Non. Mais oui, ça aurait été
août.
Logique. Non. Non, mais tu te rapproches. Non, ça c'était le truc d'avant. Non, je vais te le dire parce que là, c'est trop difficile pour toi. C'était octobre et je n'ai aucune idée de pourquoi on chasserait plus en octobre qu'en avril parce que je crois que la saison de la chasse, c'est plus tôt. J'en sais rien. Je m'y connais pas assez. J'ai des bonnes raisons de pas m'y connaître assez. Alors ensuite, celle-ci, ça n'a aucun rapport avec rien. La pleine lune rose. Non. Non. Oh, si, c'est un tout petit rapport, limite, pourquoi pas.
Novembre?
Non.
Oh, dis-le.
Avril. Et alors, je n'ai aucune idée de pourquoi on dit pleine lune. Et du coup, c'est drôle parce qu'à chaque pleine lune d'avril...
C'est le printemps, il y a des fleurs.
Tu vois des articles avec écrit « la pleine lune rose » et tout. Et du coup, les gens, ils sont là « waouh, la lune, elle va être rose !» Pas du tout.
Et non.
Il en reste justement, il y a la lune des fleurs. Parce que tu me disais que c'était probablement en rapport avec les fleurs et je suis d'accord.
Le pouvoir des fleurs, Laurent Voulzy.
Fleurs, du coup. Laurent Voulzy a sorti cette chanson l'année de ma naissance, par ailleurs.
Oh. Voilà.
C'est bon cru.
En fait, là, on est arrivé à un stade où je sais plus ce qui reste comme mot.
Allez, je vais t'aider. C'est le mois de mon anniversaire.
Le mois de mai.
Oui. Voilà. Ensuite, on a la pleine lune de glace. Elle est fastoche.
Février.
Voilà. Et ensuite, on a les deux pleines lunes au nom le plus drôle du monde.
Ah.
Numéro 1, la pleine lune de l'esturgeon. Tu as bien entendu, comme le poisson.
En août?
Oui. Et apparemment, c'est parce que genre, c'est une période où les esturgeons sont nombreux. Ça doit être genre la reproduction, j'en sais rien. J'ai pas compris. Et ensuite, les la dernière sont... est incroyable. C'est ma pleine lune préférée. C'est la pleine lune du castor.
Oh, ça doit être à l'automne, ça, le castor, non?
Oui.
Qu'est-ce qui nous restait? Septembre, on l'a fait?
Septembre, on l'a fait.
Octobre?
Oui.
Novembre.
C'est novembre, tout à fait. C'est la pleine lune du castor pour une raison que j'ignore. Voilà.
Les castors doivent construire en novembre, je sais pas.
J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé.
Ils ont juste pris plein de noms qu'ils trouvaient rigolos, et ils les ont jetés sur un calendrier et puis ils ont attribué.
Et dans tout ça, t'as un dernier nom de pleine lune qui n'est pas lié à la saison. C'est la pleine lune bleue. Quand vous lisez, il y aura une pleine lune bleue. En fait, c'est pas du tout en rapport avec un mois en particulier ou en rapport avec la couleur de la lune. C'est comme ça qu'on appelle la 13e pleine lune d'une année. Parce que normalement, il y a 12 pleines lunes dans une année, une pour chaque mois. Et parfois, ça arrive tous les 2 ou 3 ans, je crois, que ça se décale un peu et qu'on ait 13 pleines lunes. Et du coup, la pleine lune bleue, c'est le nom qu'on donne à la 4e pleine lune d'une saison. Parce que normalement, il y a 3 pleines lunes pour 3 mois dans une saison. Voilà. Petit fun fact.
Et ben c'est bien tout ça.
Voilà.
Donc la prochaine fois qu'on regardera la lune, on pensera à... Tiens, elle s'appelle comment ce mois-ci?
En ce moment, la lune est en... Qu'est-ce qu'elle fait la lune?
Et ben c'est les fleurs, vu que ça en met.
Oui. Enfin, on a déjà eu la pleine lune des... Attends.
Et juin, c'est quoi déjà?
Juin, c'est la pleine lune des fraises. C'est la prochaine.
Ok, donc on va rentrer dans les fraises.
Je suis ravie. Des lunes et des fraises, c'est mon prochain projet d'émission télévisée. Stay tuned.
Tu dis prochain comme si t'en avais déjà fait.
Bien sûr. Peut-être que t'es pas au courant de tout dans ma vie, Louise, en fait.
Ah. Je vais me mettre à regarder TMC le matin et un jour... Je sais pas pourquoi TMC. Je me suis dit que ça tirait bien.
Télé Monte Carlo, très bien. Pourquoi pas.
Ah, c'est ça ouais. Ok. Bah, c'est surtout la chaîne où il y a genre Hercule Poirot et les trucs comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Il y a toujours des films cool.
Ah, les petits policiers anglais.
Les trucs qui passent plus ailleurs, nulle part.
On passe aux anecdotes ?
Ouais.
C'est la...
Les anecdotes.
Anecdotes. Qu'est-ce que quoi ?
Moi, j'ai deux anecdotes.
Oh !
T'as vu ?
Vas-y.
Alors, anecdote.
Moi, j'en ai une mini, alors vas-y.
Bah, c'est deux mini aussi, on va avoir que des mini. Alors, je regardais le documentaire Netflix sur les chats qui s'appelle Notre langue au chat.
Ouais.
Est-ce que tu l'as vu ?
Non.
Eh bah, quand tu le verras, tu vas crier à un moment. Parce que dedans, il y a un passage où il y a une dame qui est interviewée, qui s'appelle le docteur Eva Maria, qui est paléogénéticienne, et qui dit, je cite... Au Moyen-Âge, virgule, les chats étaient associés aux sorcières. Pourquoi pas? Mais ensuite, elle continue et elle dit « Ces sorcières étaient en réalité des femmes intelligentes, pleines de sagesse et proches de la nature. » Point. Fermez les guillemets. Voilà. J'ai ri parce que j'ai pensé à toi.
Tu m'as entendu crier depuis chez moi.
Déjà, j'ai engueulé ma télévision. Enfin, la télévision de mes parents. Et ensuite, j'ai ri parce que vraiment, j'ai pensé à toi en train d'engueuler la télé aussi. C'est vraiment le cliché fantasmé de la sorcière de Michelet dont tu parlais dans ta dernière chronique.
Ouais. Je suis apparue derrière la madame avec mon index levé en sang.
Voilà.
Alors
Et c'est pour ça que la dame est paléogénéticienne et pas historienne.
Heureusement.
Ah oui, pardon, anecdote numéro 2, parce que j'avais une deuxième anecdote.
La suite.
L'autre jour, j'étais avec ma nièce qui a 11 ans et qui est fan de Harry Potter sans avoir lu les livres, mais j'ai arrêté de me battre. Et de tout ce qui a un lien avec les sorcières et tout. Et
mais attends, pardon, elle a 11 ans, c'est l'âge parfait.
Ouais, je sais. Qu'est-ce que je te dise ? Ils lisent plus, les gosses, ils lisent plus.
Ah non, tu es une extrémiste là.
Je suis pas une extrémiste, je vois ce que mes neveux font et ça m'énerve. Comment est-ce que tu peux dire que t'es fan d'Harry Potter et t'as pas lu tous les livres? T'as lu 2 livres et demi, tu te souviens plus qu'il y a dans le deuxième, tu te souviens même plus de La Chambre des Secrets, c'est bon. Je vais pas râler, voilà. Et donc, dans une conversation avec son père, je l'entends dire qu'elle veut un tarot. Et donc, je lui demande...
Toi, tu... Oui, quoi,
C'est
qu'est-ce
pour
qu'il y
quoi faire? Et elle me dit, bah, c'est pour tirer les cartes avec mes copines et tout, parce que j'ai une copine qui fait ça. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir l'équivalent d'un sextalk, mais pour l'ésotérisme, avec ma nièce de 11 ans. Et de lui expliquer, du coup, voilà, ce que c'était le tarot, qu'il y a certaines personnes qui disent prédire l'avenir, mais que je ne trouve pas que ce soit très réglo de dire ça aux gens, et que ce n'était pas la façon dont on pouvait se servir d'un tarot. On pouvait se servir d'un tarot pour un peu comme, du coup, je lui ai expliqué ce que c'était qu'un test de Rorschach avec les
Ouais,
taches
avec
d'encre
les
et tout, que
taches.
ça pouvait servir à aider à se poser des questions, etc., ou à discuter avec des gens par le biais des images et tout. Et du coup, c'est un peu c'est délicat parce que comme l'ésotérisme, ça marche vachement bien sur Internet et tout, et notamment TikTok, bah, je pense que les gens vont s'y intéresser de plus en plus jeunes. Et moi, quand j'ai découvert le tarot, bah, j'avais déjà dans ma vingtaine, en fait, donc j'étais beaucoup moins influençable et malléable que qu'on l'est quand on a 11 ans et qu'on découvre un truc et qu'on a tendance à croire un peu tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on regarde en vidéo, même si les enfants, je pense, de maintenant sont bien moins sont bien plus au fait de.
Que tout ce qu'ils voient,
Oui, voilà, c'est ça.
c'est pas vrai.
Donc voilà, si jamais vous avez des enfants ou des ados dans votre entourage qui s'intéressent à l'ésotérisme, n'hésitez pas à leur faire un petit discours sur.
Attention, si on te demande de l'argent, fuis.
Mais même sur le fait de garder son libre arbitre, de lire des choses qui ont des sources différentes, de pas suivre les mêmes personnes,
Ouais, bah
etc.
c'est... En fait, tu lui as fait un cours de d'éducation dédié
Voilà.
à quoi?
Bah ouais, mais aussi de. Ouais, je. C'est un âge où tu cherches vraiment des réponses à tes questions et t'en as beaucoup des questions, donc c'est difficile d'expliquer à une fille de 11 ans que. Qu'on peut se servir de l'ésotérisme pour se poser des questions, mais que ça y répondait pas forcément, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Il vaut mieux que ce soit avec vous que plutôt que les gosses aillent lire n'importe quel truc et des trucs qui sont pas forcément cool, genre pas forcément très inclusifs et tout.
C'est pas faux.
Voilà, c'était mon anecdote de vie.
Ouais, elle est cool.
Oui, voilà.
Et t'avais des vraies anecdotes?
Oui. Bah oui. De temps en temps, j'ai une vie, mais vraiment de temps en temps.
Et ben moi aussi j'ai une vraie anecdote. Je suis allée à un festival de littérature de fantastique, fantasy. Et j'étais avec le stand d'une asso, la Gazette du Sorcier, si vous voulez tout savoir.
Si vous connaissez pas, allez
Et on
checker le
s'ennuie un peu
site.
sur le stand. On s'ennuie un peu sur le stand, du coup je jouais avec une baguette magique qui sert de décoration. Et j'ai pointé la baguette magique vers une dame au pif dans le public, enfin dans les gens qui passaient, en lui lançant enfin j'ai dit Império, achète un truc.
Un jeté un
Et cette
truc.
dame est littéralement allée droit vers le stand, à regarder les trucs, à discuter un petit peu
C'est
et à acheter un
incroyable.
truc. Ouais. Et du coup, j'ai jamais voulu réessayer du week-end parce que je me suis dit, c'est bon, on a tous eu une preuve de
T'as
ma
été
magie, maintenant
comme
j'arrête.
la fille de la dame dans l'histoire dont tu parlais, qui était persuadée qu'elle a lancé un sort aux gens. Mais toi, tu n'as dénoncé personne. Tu
Exactement.
l'as gardé pour toi. Voilà.
Non, je fais gagner des sous à l'asso. Ouais, comme ça on a pu payer notre
Yay!
logement. Ouais. Voilà. Je sais pas du tout comment on va illustrer nos anecdotes,
Oh,
ça va
bah
être
attends,
rigolo.
si, c'est fastoche, c'est. Si, on va trouver une image de une main avec une baguette magique. Bah, t'as plus qu'à prendre en photo ta main avec une baguette magique dedans.
Avec une baguette magique.
Parce que moi, ça fait des années que
Reconstitution.
j'essaie de faire léviter mon chat en faisant Wingardium Leviosa et ça marche pas du tout.
Ah, moi, j'essaye des axios pour quand je suis affalée quelque part pour attirer des trucs, mais
Hein,
ça
c'est pas
marche pas.
mal. J'ai certainement dû essayer l'humus aussi, sans succès.
Peut-être que ça marche, mais genre pas chez nous. Peut-être que chez notre voisin, il y a la lumière qui
J'ai
s'allume.
cru t'allais dire, genre, dans une autre dimension où la magie existerait, peut-être que nos sorts.
Non, chez le voisin.
Ce serait trop drôle qu'il y ait une autre dimension, exactement comme celle-ci, mais où, genre, la magie serait normale et où, des fois, nous, on dirait des lumos pour déconner, et de l'autre côté, ça allume la lumière et serait là, genre, oh, putain, il nous saoule.
C'est comme l'épisode de Friends où ils cherchent à quoi sert un interrupteur et tu vois chez les voisins où ça fait clic, clac, clic, clac.
C'est drôle.
On a terminé.
Ouais, écoute.
J'ai fini.
Moi aussi. Applaudissements, s'il vous plaît.
Clap, 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 clap. Je fais bien des applaudissements avec la bouche. Clap, 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 clap. Non. Conclusion.
Nous tenons à vous remercier d'avoir tenu jusqu'ici. Déjà.
Et puis, nous tenons à vous encourager à nous suivre sur vos plateformes de podcast favorites.
Et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux.
Nous aussi.
Des fois, on met des trucs.
Voilà. On a Twitter, Facebook, Instagram. On mettra une magnifique photo de reconstitution de ma main qui est en sort de magie.
Absolument.
Vous ne voulez pas rater
ça.
Non, vous
ne voulez pas.
Et puis on remercie aussi Moon and Sun pour la musique.
Et bien sûr Craig, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.